36, il est 13h.
C'est Sweet Home Chicago numéro 891 qui démarre en trompe, première émission du mois de juin avec nouveau coup de cœur du mois, The Manish Boys, Double Dynamite, et oui, double album avec un monde fou hein, sur ce disque. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez qu'il y a Finis Tasby, Sugar Ray Rayford, Randy Chortkoff, Kurt Fletcher, Frank Goldwasser, Willie J. Campbell et Jimmy Bott qui font partie intégrante des Manish Boys, plus plein d'invités. On vient d'écouter un titre que vous connaissez tous, de William Bell, donc fortement connu par l'interprétation d'Albert King, mais ici chanté par Monsieur Finis Tashby. Il y a des invités en pléthore. Je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre toutes les photos sur la double pochette. C'est chez Delta Groove. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Invité de l'émission aujourd'hui, Laurent Choubrac en studio pour tout à l'heure une rubrique à propos de Harry Manx. Ce sera donc le deuxième volet de cette rubrique. Et puis juste avant, c'est-à-dire en première heure, on aura au téléphone Bernard Selam du groupe AWEC pour la sortie de leur tout nouvel album qui s'appelle Rich and Famous. On en écoutera quelques extraits bien sûr, puisque c'est également le disque de la semaine chez Epsilon Records, un disque qui sort pile aujourd'hui, je crois bien, date de sortie 2 juin, j'avais vu ça quelque part. On écoutera ça tout à l'heure. Je sais que Bernard est en ce moment en route pour Satonnet. Il y a un festival qui se prépare ce soir même. Ils sont sur la route avec tout le band et le temps de trouver une aire d'autoroute, l'interview pourra se dérouler sans souci. Donc en attendant, voici un nouvel extrait d'une compilation que je vous ai proposée encore la semaine dernière. Electroglide Records nous propose The Blues An Evolution. Je vous avais fait découvrir Brandon Santini. Voici Big Dog Mercer avec Some Other Fool.
Hey baby, why you wanna treat me in this way? Well, hey baby, why you wanna treat me in this way? Well, I'm tired of all your jive, woman, so find some other fool to take my place. I work like a dog on my job, and I sweat and sleep for 12 hours a day. Now, I come home every Friday night. You got your hand out for all of my pay. Yeah, all of my pay. I'm tired of all your job, woman, so find some other fool to take my place. Take my place.
Extrait d'une compilation The Blues and Evolution chez Electroglide Records, c'était Big Dog Mercer, Some Other Fool. On retrouve également Danny and the Devils et Tom Holland and the Shuffle Kings, ainsi que, je vous l'ai dit, Brandon Santini pour 3 titres chacun, 12 titres Electroglide. Voici le disque de la semaine, Rich and Famous. On parlera de la sortie de cet album et de plein d'autres choses à propos de l'actualité du groupe Awek tout à l'heure avec Bernard Selam, le leader, chanteur, guitariste de Awek. En attendant, voici un premier extrait, ça s'appelle She Turns Me On.
Waiting for me.
She Turns Me On, donc extrait de ce Rich and Famous. Je suis précisément au téléphone avec Bernard Selam. Comment ça va, Bernard?
Eh ben, ça va bien, très très bien, merci Marc.
Bon, il fait beau sur la route, là c'est la route du sud, hein, pour aller jouer ce soir près de Lyon, c'est ça?
En fait, on fait un festival qui s'appelle le Satonnet Blues Festival,
ouais.
Qui est un très bon festival qu'on a déjà fait il y a 10 ans, que le temps passe vite, et voilà, qu'on refait cette année, donc voilà, on est très très heureux de retourner dans ce cadre magnifique, c'est la cour d'un château, enfin c'est superbe.
Et je crois savoir qu'aujourd'hui, c'est en fait la toute première journée de sortie de l'album Rich and Famous.
Et voilà, donc je suis très très content que Sweet Chicago soit au rendez-vous et ponctuel, on va dire. C'est très bien, oui, ça sort aujourd'hui officiellement.
Ponctuel à la sortie des albums d'Awek, je ne suis pas souvenir que depuis, allez, pas forcément depuis le tout début, mais depuis allez, 2001 et Barbershop, je crois qu'on les a tous diffusés. Il y avait auparavant Chess Session et puis Back to the Same Place. Depuis 1997, hein, l'aventure Awek, depuis le premier album en fait, en trio initialement, hein, c'est ça?
Oui, en trio initialement, mais enfin, ça fait quand même 8 ans que bientôt qu'on joue avec Stéphane Bertolino à l'harmonica.
Et j'étais en train de regarder ça, c'est le 8e album, donc 4 en quartet, donc ça fait bien longtemps, tu l'as dit, depuis 2004
oui.
en quartet. Stéphane Bertolino qui, soulignons-le, rappelons-le, a obtenu l'an dernier un award en tant que meilleur harmoniciste à Memphis. Hein.
Voilà, ben je confirme. C'était pour l'IBC à Memphis, l'International Blues Challenge.
Exact, c'était en début 2011. Alors cet album Rich and Famous, d'abord il y a une pochette, c'est celle qui s'impose aux yeux de tous quand on regarde un petit peu partout sur l'internet, et puis très bientôt j'espère dans les bacs à partir d'aujourd'hui, une pochette qui fait déjà un petit peu parler d'elle, puisque vous êtes tous les quatre installés très confortablement dans le hall d'un hôtel, enfin riche, enfin célèbre, c'est le cri du cœur. C'est au deuxième degré, Bernard. Hein.
Bien entendu, c'est au deuxième degré. Non, je pense pas qu'on se soit pris vraiment au sérieux trop souvent dans Awek. Bien sûr, c'est du deuxième degré, riche et célèbre, parce qu'on était enregistré ça en Californie, donc on fait un petit peu comme les stars qui vont faire leur disque en Californie. Voilà, sauf qu'on n'a pas enregistré dans le plus grand studio de Los Angeles, on était au sud de San Francisco, à Graceland, qui est un petit studio qui appartient à un guitariste qui s'appelle Keith Anderson,
oui.
qui est un excellent guitariste aussi, au demeurant. Et voilà, et puis donc, c'est un clin d'œil. Et puis comme il y a aussi Charlie Batty, là, qu'on vient d'écouter, qui jouait de la guitare sur le morceau qui s'appelle She Turns Me On, on a voulu faire ça un petit peu dans l'esprit des premières pochettes de Charlie Batty, Little Charlie Batty and the Nightcats. Donc on a fait ça un petit peu, voilà, il y a la dérision. C'est bien sûr du second degré.
Voilà, donc déjà pas mal d'infos. Effectivement, l'album a enregistré du côté de San José chez Keith Anderson, son studio Graceland. Peut-être un petit clin d'œil, je ne sais pas, à Elvis Presley pour lui, Graceland. Je ne sais pas, j'ai tout de suite vu le... Non, pas forcément.
Non, je pense pas spécialement. Puis c'est vrai que c'est quand même assez éloigné l'un de l'autre.
Ah bah oui, mais c'est pas Memphis.
Graceland, c'est Memphis. Graceland, là, c'est vrai qu'on défend, on a tendance à confondre un peu les deux. Non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus sobre chez Keith Anderson. Voilà, Graceland, c'est un studio, c'est chez lui en fait, mais c'est un studio qui est super agréable.
Juste avant de parler de l'album et puis de son enregistrement, j'ai quelques questions à ce sujet-là, bien sûr. Je voulais quand même savoir quel regard tu portes sur la discographie d'Awek, période trio, justement, ces fameux 4 albums avant Just Pick Up the Pieces. Et donc, avant l'arrivée de l'harmoniciste Stéphane Bertolino, et j'allais dire encore avant, est-ce que tu les as réécoutés depuis ces 4 premiers albums?
Oh, ben, je les réécoute pas régulièrement, mais de temps en temps, oui, ça me permet de voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru. On est dans les premiers disques, on se cherche complètement, on arrive peut-être les uns les autres d'horizons différents, et puis voilà, on avait un blues qui était beaucoup plus rock, on a toujours rêvé d'avoir un harmoniciste, on a eu d'ailleurs un harmoniciste sur Chess Session et puis sur Barbershop, qui ont été le deuxième et troisième album, c'était Youssef Remadna, donc
ouais.
Pas des moindres, puisque super harmoniciste et très grand chanteur. Et donc, quand on a pu se permettre d'avoir le Stéphane Bertolino avec nous, ben on l'a pris très vite. Et c'est vrai qu'avec un harmoniciste, notre blues est devenu beaucoup plus traditionnel. Mais en fait, c'est ce que moi je recherchais depuis assez longtemps.
C'est un son qu'on sent depuis le premier album enregistré aux États-Unis. Donc c'est le troisième de suite, hein, les deux à Austin et puis l'autre à San José en Californie, avec un son un petit peu plus varié, l'orientant parfois vers le jump blues, parfois vers des sonorités, des ambiances un petit peu plus Louisiane.
Oui, bah disons que aujourd'hui on va écouter du blues un petit peu de partout parce que voilà, on est plus dans les années 50 où on est paumé dans une région où les gens écoutent toujours le même style de blues. C'est vrai qu'aujourd'hui, puis même depuis assez longtemps, depuis que le blues est devenu quand même une musique internationale, on a plein d'influences. Et puis nous, ben, on se revendique de pas toutes les influences, mais voilà, de certains styles. On aime bien le Texas blues, bien sûr, on aime le Chicago blues traditionnel. Je suis pas trop branché sur ce qui se passe à Chicago depuis une vingtaine d'années.
Le Chicago blues traditionnel, c'est plus ce qu'on pouvait trouver dans les années 50, avec peut-être l'arrivée du West Side Sound à la fin des années 50, début
voilà.
60.
Enfin, nous, c'est vrai que nos grandes références, c'est Little Walter, Muddy Waters, The Howlin' Wolf, ces gens-là, et puis après il y a aussi des gens comme B.B. King, mais après voilà, on écoute aussi, il faut le dire, c'est pour ça qu'on a été là-bas, on écoute beaucoup de Californiens aujourd'hui, qui justement eux ont intégré tous ces styles-là, hein, des gens comme Mark Hummel, donc qui produit notre disque, qui a intégré tous les styles des grands harmonicistes des 40-50 dernières années.
Il y a un guitariste, à mon avis, archétype de ce bridge entre la Californie et Chicago. C'est un garçon qui a vécu longtemps à Chicago et qui maintenant habite en Californie et qui enregistre ici comme autrefois là-bas. C'est Steve Freund.
Oui, j'aime beaucoup d'ailleurs Steve Freund. Et c'est d'ailleurs un copain de Mark Hummel.
Alors Mark Hummel, voilà.
Voilà, oui, Marc qui a produit notre disque m'avait proposé les services de Steve Freund. Puis finalement, bon ben, on a pris Charlie Batty. Puis il y avait Keith Anderson, donc on n'allait pas. Comme je suis déjà moi aussi guitariste, on voulait faire un album de musique, pas uniquement un album de guitare.
Voilà, et pas forcément à l'image du disque qu'on a écouté en tout début d'émission, les Manish Boys, Double Dynamite. Tu sais, le truc avec 50 invités, c'était pas votre truc, ça.
Bah, disons que il y a. On veut continuer à garder notre image et notre identité. C'est-à-dire que même quand on a des invités, ben les invités doivent s'intégrer à notre musique. Voilà, même quand c'est des très très grands, des gens qu'on écoute depuis des années, moi je suis un fan de Charlie Batty, de Mark Hummel, même de Keith Anderson. Je peux dire que j'ai tous leurs disques. Mais voilà, quand on fait du Awek, ça reste du Awek. Et puis ils ont su voir que voilà, on est quand même dans le même trip en fait ensemble. Là. On joue un peu, quelque part, un petit peu la même musique. Donc, ça a été très facile hein, de travailler avec eux. C'était vraiment du bonheur.
Alors, tu évoques Charlie Batty, tu évoques Mark Hummel, on va en parler. Bob Welch également, qui est le pianiste attitré de Mark Hummel. Mark Hummel, c'est lui qui a produit l'album. Je voulais savoir, d'abord, comment est-ce que tu l'as rencontré? Comment est-ce que tu l'as branché là-dessus?
Marc, en fait, c'est moi qui étais vers lui, bien sûr. J'avais remarqué qu'il faisait il avait produit pas mal de gens, il avait produit un album avec Johnny Dyer, il produit aussi toutes les rencontres d'harmonicistes, ça s'appelle les Harmonica Blowout.
Oui.
Donc je me suis dit, ce gars-là, il a l'habitude de gérer des musiciens, de faire de la production. Ça peut être quelqu'un, comme c'était quelqu'un que j'aime beaucoup, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui serait bien pour Awek. En plus, j'aime beaucoup sa sonorité d'harmonica. Je l'ai contacté tout simplement, par personne interposée. Je lui ai envoyé notre dernier disque. Il a vu qu'on avait fait un bon disque à Austin, qu'on avait enregistré avec des gens qu'il connaissait bien, à savoir Fred Kaplan dans le disque précédent au piano, avec qui il a joué plusieurs fois. Il y avait Cass Kazanoff, il y avait Derek O'Brien aussi. Bon voilà, il s'est dit, ces petits gars-là, ces petits Français, ils sont quand même relativement sérieux. Donc voilà, il écoutait le disque, ça lui a plu, il a dit banco les gars, il s'occupait de tout, il nous a trouvé le studio.
Ouais voilà, c'était quoi son rôle concrètement? Et la production, c'est pas seulement trouver le studio et mettre les gens en connexion les uns avec les autres, c'est aussi peut-être participer à la création de l'album, à la genèse, à l'écriture.
Déjà le son, c'est-à-dire que pour moi, et même je pense que si Stéphane était près de moi, il confirmerait, Stéphane Bertolino, donc notre harmoniciste, n'a jamais eu un aussi beau son que depuis qu'on a fait cet album-là. Enfin, en tout cas, en studio, parce que y avait Mark Hummel qui était là et qui a fait un boulot énorme par rapport au son de Stéphane. Il lui a vraiment façonné le son comme Stéphane l'avait toujours rêvé de l'avoir. Je ne dis pas que Stéphane a un son qui n'est pas intéressant, mais là, il est allé vraiment. Mark, ayant rencontré les plus grands harmonicistes que la Terre porte en ce moment, voilà, il sait de quoi il parle et il nous a beaucoup aidé à, et pas que dans le son d'harmonica. Je sais que par rapport à ma guitare aussi, il m'a donné des conseils. Et puis pas uniquement pour ça, il nous a dirigé aussi sur la longueur des morceaux, sur la longueur des solos, sur l'équilibre. C'est lui qui a fait l'ordre des morceaux aussi.
Ah oui, donc ça c'est vraiment une production de A à Z, effectivement, la longueur des morceaux, l'enchaînement, la conception. Est-ce que ça a été jusqu'à la conception de la pochette?
Ah non, la pochette, ça, on veut toujours garder notre indépendance par rapport à ça. Puis on a notre graphiste qui s'appelle Denis Chaublet, qui c'est son cinquième album avec nous. Puis là, cette fois-ci, surtout, Denis Chaublet était avec nous en Californie. Donc on a réussi à le faire venir. Il a fait des photos du studio, il a fait tout un reportage aussi sur tout l'environnement là où on était, c'est-à-dire en fait on est dans la Silicon Valley. Donc on s'est baladé avec lui, il a fait plein de prises de vue, il a fait même une expo sur ce voyage-là. Ouais. Donc la pochette, on a voulu vraiment garder notre identité. Non, Marc est intervenu que pour la musique. Il était là bien sûr aussi au mixage avec Kid Anderson. Et Kid Anderson aussi a produit pas mal. Bon, on l'a pas marqué, mais Kid a donné plein de bonnes idées.
J'allais dire Kid Anderson, il a quand même joué derrière un certain Charlie Musselwhite aussi, hein.
Oui, par exemple.
Accessoirement. Et puis,
maintenant derrière Ricky Strin, et puis derrière plein de gens, ouais. Des gens qu'on adore.
Kid Anderson, il joue également de la basse. Hein. Ça, les gens ne savent pas forcément. J'avais eu l'occasion de le voir sur une tournée avec John Nemeth à l'harmonica et Guitar Watson à la guitare. Et Kid Anderson, il a pris la basse, quoi, tout simplement. Hein. C'est des gens qui savent faire plein de choses. Bernard, par rapport à cet album, vous avez enregistré, j'imagine, en quoi 2-3 jours 4 jours ça a été assez rapide, finalement.
On a fait 3 jours de prise et puis une quatrième journée où on a réécouté, on a refait 2-3 bricoles, mais on enregistre tous ensemble. Nous, on fait ça à l'ancienne, hein, comme dans les studios de Chess à l'époque, où on est tous dans la même pièce et on enregistre. Et puis après, on fait plusieurs prises du même morceau, et puis on garde la meilleure, voilà. Après, c'est vrai qu'on a passé quoi, 4 jours, en tout, à enregistrer.
Avec un petit peu de recording pour le chant, pour les...
Très peu, on a refait quelques chants, parce que je tenais à ce que l'anglais soit bien prononcé. Donc en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est Kid Andersen qui est norvégien d'origine, mais qui parle l'anglais, l'américain, sans aucun accent, qui m'a beaucoup aidé par rapport à la prononciation. Marc aussi un petit peu. Donc voilà, quand il y avait des phrases qui allaient pas trop ou la prononciation était mauvaise, donc j'ai dû recommencer quelques bouts de phrases. Mais en gros, les morceaux, ils ont été enregistrés tous ensemble, même avec le chant. On a rajouté, le quatrième jour, on a rajouté un tambourin, une petite percussion. Voilà, on a refait 2-3 bricoles, mais en gros, c'est un album live. Hein,
voilà, live en studio. C'est un album qui a été enregistré en novembre dernier, je crois. Est-ce que les morceaux avaient été rodés sur scène avant, ou est-ce que vous êtes arrivé avec tout le matériel au répertoire pour dire, tiens, celle-là, on la prend, celle-là, on la fait pas? Comment ça s'est passé?
Disons que nous, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même pas mal maquetté à l'avance en France. Donc dans un petit local de répétition qui est en fait un petit studio. Donc on s'est enregistré, on a écouté les morceaux et surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué les morceaux sur scène. Ça c'était D'accord. très important. On a pu les roder en fait l'été dernier. On a rodé les morceaux et sur scène, on s'est rendu compte avec avec le public si les morceaux fonctionnaient ou pas. Voilà.
Alors, avec le public, essentiellement le public français peut-être, sachant que vous êtes quand même appelé relativement souvent, régulièrement, disons, à jouer également à l'étranger.
Oui, on joue un petit peu à l'étranger. Bon, on joue rarement aux États-Unis. Enfin, bon, l'année dernière, on y est allé 2 fois. Mais on joue en Belgique, on joue en Suisse, on joue en Espagne. Là, bientôt, on va aller jouer au Maroc.
Est-ce que le fait d'avoir enregistré là-bas, ça vous a permis également de vous y produire, ou alors vous êtes uniquement concentré sur le studio?
Non, on a joué aux États-Unis. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que avant d'enregistrer, on a fait 2 concerts, parce qu'il n'y a rien de tel que jouer sur scène pour se mettre en forme. Donc on a fait 2 concerts aux États-Unis à côté de San José. Oui. Un à San José, l'autre à Campbell, dans 2 clubs. Donc c'est Marc Hummel en plus qui nous a trouver les plans, donc c'était plutôt sympa. Et puis voilà, ça a marché vraiment sincèrement très très bien. parce qu'on a rencontré plein de musiciens là-bas, des gens connus, d'autres moins connus.
Mais j'ai cru comprendre que tu avais fait la connaissance d'une certaine Laura de Chavez ou de.
Oui, hein oui, oui. Laura est venue jouer avec nous. Et en fait, elle avait vu sur Internet qu'on jouait là. Elle a été voir nos vidéos YouTube. Et puis elle s'est dit, tiens, ça c'est un bon groupe que j'aime bien. Et puis donc elle est venue, on a joué ensemble, on a passé la soirée ensemble, on s'est vraiment marré. Puis on a rencontré plein de gens. Et Marc et Kid Andersen, tous les soirs, ils nous sortaient. On allait jouer tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, après le studio, complètement crevé, on allait jammer, on allait. Et puis on a eu l'occasion aussi avec Olivier, donc le batteur d'Awake, d'accompagner Marc Hummel, qui était en rate de batteur. Donc voilà, il nous a demandé de jouer avec lui. Donc moi, j'étais en deuxième guitariste, mais je me suis régalé.
Ah, donc, la bonne corde au bout des doigts quand même. Hein, enregistrer toute la journée et rejouer le soir en live, chapeau, il faut suivre. Un petit peu de temps pour dormir quand même de temps en temps.
Ouais, pas trop, mais on s'est tellement régalé que bon, bah, le temps passait très vite. Ouais. C'est vrai qu'on était un peu crevés, mais disons qu'eux, ils ont l'habitude de travailler comme ça. Hein. C'est des gens qui travaillent énormément, qui font beaucoup de routes. Ils sont tout le temps sur la route et qui jouent énormément tous les jours. Hein. Nous, on joue pas assez en France.
Mais on le dit pas assez souvent, mais c'est vrai qu'un groupe qui fait 40 dates en France, c'est déjà pas mal. Un groupe qui en fait autant aux États-Unis, non, ça c'est pas comme ça qu'on peut se débrouiller. Bah,
c'est pas viable. Et donc, le fait d'enregistrer et de jouer le soir, bah, c'est leur lot de tous les jours.
C'est leur rythme.
Voilà, c'est leur rythme. Ah, moi, je voyais Kid Andersen, après les sessions de studio, il partait jouer des fois aussi. Des fois, il venait jammer avec nous. Voilà, on a passé 11 jours, en fait, aux États-Unis, on s'est régalé. Parce que je te dis encore une fois, on a passé tout notre temps dans la musique et pour le blues. Donc, c'était une très, très belle aventure.
Bernard, j'ai une dernière question par rapport à l'album, une autre question intermédiaire, et puis ensuite on terminera avec les dates de concert. Si tu veux bien, je ne voudrais pas te retarder parce qu'il y a, oui, une balance au bout quand même. Oui. Cet album Rich and Famous, donc, qui contient 16 titres, bien sûr que des compositions comme à l'habitude. Qu'est-ce qui vous a guidé, qu'est-ce qui vous a inspiré tous les quatre pour les ambiances sonores et pour les paroles? C'est deux questions séparées en fait.
Alors, pour les ambiances sonores, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque morceau a sa propre vie. Hein, c'est-à-dire que il y a trois compositeurs dans Awake. C'est vrai que bon, c'est moi qui écris le plus, mais parce que je suis chanteur, donc c'est plus logique. Mais à chaque fois qu'on a une idée, on la maquette et puis on la propose au groupe. Et puis si ça plaît, on va la jouer sur scène. Et puis ça se passe comme ça. Ça se fait un petit peu au fur et à mesure par rapport aux sonorités. Donc on n'a pas calculé spécifiquement que ce disque-là, il devait être un peu plus binaire ou plus swing ou plus New Orleans. Non, c'est venu naturellement. Voilà. Après, par rapport au texte, les textes, c'est un peu notre quotidien. Hein, c'est ce qu'on vit. C'est la route. Bon, il y a quelques clins d'œil à des thèmes d'actualité. Il y a un morceau qui s'appelle My Boss. Donc, qui parle d'un patron qui n'est pas très sympa. Bon, voilà.
My Boss, oui, on va le passer tout à l'heure, justement. C'est un morceau sympa, un morceau marrant. Un petit peu en rapport peut-être avec tous les dollars qui trônent dans le couloir de l'hôtel qu'on voit à la pochette, voilà. Verso.
Voilà, donc c'est un petit peu ça, oui. C'est un clin d'œil sur en fait, des gens dans le patronat aujourd'hui qui exagèrent un petit peu, des gens qui se gavent alors qu'il y a 99% de la planète qui crève la dalle. D'ailleurs, quand on s'est baladé avec Marc Hummel à Auckland, on a vu tous ces gens qui protestaient, qui tenaient un siège là depuis des semaines entières devant la grande mairie d'Auckland. Et donc voilà, c'est aussi ça l'Américain. Hein. C'est pas que le rêve américain, c'est pas que Hollywood. Donc voilà, je vais pas dire que c'est un album politique du tout. Il y a un morceau avec un clin d'œil là-dessus. Ouais, le reste, ça parle beaucoup d'amour, de rencontres. Voilà, il y a un morceau qui s'appelle Drive an Automatic, c'est en fait. Ça parle beaucoup de bagnole parce que c'est un endroit où la voiture dans lequel on passe beaucoup de temps avec Awake. Donc il fallait bien qu'à un moment donné on écrive une chanson sur les voitures.
Une voiture à boîte de vitesse automatique, hein, forcément, comme là-bas aux États-Unis.
Ah bah oui, là, oui.
inspiration toute trouvée. J'avais une question par rapport, non pas à l'album, non pas forcément à Awake, mais par rapport à la Toulouse Blues Society qui s'est tout nouvellement créée. Je crois que tu en fais partie de l'initiative de cette création. Oui. Pourquoi une Toulouse Blues Society?
Disons qu'à l'instar des societies, enfin des blues societies qu'on a rencontrées quand on est allé à Memphis, quand on a représenté la France à l'European Blues Challenge. Donc tout ça, c'était
avec l'égide de Blues sur scène au départ, et puis,
oui,
puis de France Blues maintenant.
Oui, France Blues aujourd'hui, voilà, avec toute une équipe de gens formidables qui essaient de faire vivre le blues français à l'étranger et qui font un travail énorme. On s'est dit que on avait un peu le même problème localement à Toulouse, à savoir que il n'y a pas assez de clubs de blues, et les gens se rencontraient pas assez par rapport au blues.
Il fallait fédérer les passions en fait.
Absolument. Et bon voilà, alors c'est pas toujours évident, mais on a réussi à faire que déjà quelques concerts. On a invité d'ailleurs Marc Hummel il y a pas très longtemps à jouer à Toulouse. Il est en tournée en Europe et on a réussi à le faire descendre jusque dans le sud de la France. Et puis, il y a des jam sessions qui existent. Il y a, j'espère, plein de concerts qui vont arriver. Pour l'instant, bon, on est un peu sur une recherche d'une autre salle, on va dire. Voilà, on a une salle, mais qui est pas trop disponible. Mais on essaie de refaire bouger un peu les choses, et c'est plutôt positif. On a fait un beau concert au Bikini en janvier dernier, où il y avait une dizaine de groupes locaux. Il y avait 750-800 entrées payantes, nous a permis de lancer l'association. C'était une très très belle soirée et il y a plein de gens qui se rencontrent grâce à la Toulouse Blues Society aujourd'hui, des musiciens, des passionnés de cette musique là et voilà, donc c'est okay. Beaucoup de travail, mais il y a des résultats qui sont très encourageants, on va dire.
Donc belle initiative, en effet. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui se sont rendus compte depuis bien plus longtemps que nous en France que c'était important aussi de fédérer les passions. Je pense, tu évoquais la Norvège avec Kid Andersen, j'ai eu l'occasion d'aller faire un tout petit tour en Norvège, mais de me rendre compte surtout que même une petite ville de 3000 habitants pouvait posséder sa propre blues society. On n'agit pas tous de la même façon d'un pays à l'autre, mais en tout cas c'est un petit peu à l'image des États-Unis où dans chaque grande ville il y a une blues society. Ça paraît tout à fait naturel là-bas, quoi.
Voilà, mais en France aussi, il y a des Blues Society. Hein. Il y en a une du côté de Clermont-Ferrand. Il y a aussi un tas d'associations.
Arverne Blues Society, exact.
Ouais. Arverne Blues Society. Mm. Puis après, il y a plein d'associations. Il y a Tournon d'Agenais. Il y a les Frères Boncourt, donc à Tournon d'Agenais, pas trop loin de Toulouse, vers Cahors. Et puis, il y a Gilles Boncourt, donc l'Eden District Blues aussi du côté de Manosque. Voilà, on peut dire que c'est des Blues Society, même si c'est des gens qui font que organiser des concerts, mais ils font aussi des émissions de radio, ils essaient de faire vivre cette musique-là. C'est en fait ce que tu fais toi aussi, Marc, et puis ce qu'on essaie tous de faire, parce qu'on ne fait pas de la musique pour devenir riche et célèbre.
Ah ben voilà, la boucle est bouclée, Bernard, rich and famous. On va annoncer quelques dates de AWEX. Ce soir, tu l'as dit tout à l'heure, à Saturday Blues Festival. Saturday, c'est dans la région de Lyon. Le 9 à Marina Class Class, c'est par chez toi, hein, dans le 31.
Oui, oui.
9 juin, donc c'est samedi prochain. Ensuite, le 23 juin à Lavelanet avec Neil Black. Tiens, non, la date est annulée, pardon.
La date est annulée, en fait. Désolé. Ça va se faire à Saint-Blancard. C'est un petit village dans le Gers, mais où il y a une très bonne radio blues qui s'appelle Radio Coteau. César, qui fait partie d'ailleurs du collectif des Radio Blues, qui va promouvoir cette soirée. Et voilà, remplacement, on va dire.
Voilà, et puis ensuite, pour le mois de juin, il y a également une date à Bourges, le 30 juin. Je continue sur juillet, parce qu'il y a des choses intéressantes.
Oui,
le 6 juillet à Tourette, c'est dans le Var. Le 8 à Jazzy Blues Festival à Montoire-sur-le-Loir, dans le Loir-et-Cher. Oui. Et puis le 9, une grosse date à Vienne, hein, le Festival Jazz à Vienne qui accueille, comme tous les ans, une grosse soirée blues avec Kebmo et Magic Slim. Et en première partie, ce sera AWEX.
Voilà, donc là, on est très très content de faire ce festival-là, parce que pour nous, c'est une très très belle vitrine pour se faire découvrir un plus grand public et sur une scène extraordinaire, mythique maintenant.
Voilà, moi j'engage les auditeurs qui s'intéresseraient à AWEX au répertoire. On va écouter un autre morceau tout à l'heure. Bah, allez voir directement sur le site. Hein, c'est tout simplement www.awecblues.com. Il y a tout plein de dates cet été. Et puis la sortie de l'album aujourd'hui même, Rich and Famous, avec la possibilité pour les spectateurs de Saturday Blues Festival d'acquérir en primeur ce superbe disque de la semaine pour Sweet Home Chicago, 3 étoiles, Bernard. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai que je sais pas comment on peut trouver un point faible à ce 16 titres, hein, parce que quand on fait 16 titres, parfois on peut dire il y a un peu de déchets. Et ben là, désolé, il y en a pas. J'en ai pas trouvé en tout cas.
Bon, écoute, je suis très heureux que ça te plaise, et puis j'espère que ça plaira surtout à à tous les amateurs de blues.
Il faut surtout que ça plaise aux auditeurs et puis aux éventuels spectateurs de Huawei, bien sûr, pour toutes les dates qu'on a annoncées tout à l'heure. Bon concert ce soir, et puis bonjour de ma part aux autres membres du groupe quand tu vas les retrouver tout à l'heure. Et puis bonne route surtout dans les médias.
Merci Marc, sans faute, et puis encore un grand merci aux auditeurs de Sweet Home Chicago, et puis à tous ceux qui aiment le blues. À très bientôt.
Merci Bernard, avec plaisir. À très bientôt.
Au revoir.
On continue avec donc My Boss, ce fameux titre extrait de Rich and Famous, et puis on y reviendra avant la fin de cette émission. Le groupe AWEC. Extrait de l'album Rich and Famous chez Absilon, un album qu'on peut trouver à partir d'aujourd'hui. Disque de la semaine pour ce 891e Sweet Home Chicago. Merci encore à Bernard pour cette interview en direct live de l'autoroute de Valence, sur l'autoroute de Valence à Lyon. Et on va retrouver notre ciel plombé normand. Non, il fait beau aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Laurent Choubrac, également invité de l'émission. Laurent, ça va?
Ouais, bonjour à toutes et à tous.
Ils sont bons les cookies?
Ouais, ils sont bons.
Impeccable. Merci pour les cookies, Miss Christine qui est là dans le studio également. Miss Nat qui est là, qui nous... Et puis Régine qui est à côté dans le... Bon, y a du... Ah, t'as vu un petit peu les sweetettes aujourd'hui.
Ouais. On est... Je reviendrai. Hein. Ah,
Il y a pire, il y a pire. On pourrait, on est mieux qu'en prison, comme on dit. Hein.
Oui, vu comme ça, oui.
Ça va. Donc ça va. Tu reviens pour la deuxième couche de Harry Manx. On n'en a pas eu assez la dernière fois. On n'est pas passé dans tous les tréfonds de la discographie. Et tu m'as sorti deux albums que j'avais pas. Je vais te les gauler tout à l'heure.
Bah, volontiers, Marc, pas de problème.
Alors, qui est Harry Manx? Un Canadien émigré dans plein de pays.
Ce que j'expliquais la dernière fois, hein, c'est quelqu'un qui est né sur l'île de Man, qui est arrivé au Canada tout jeune. Qui s'est mis à la musique, notamment à la slide guitare, parce que et à la lap steel et tout. Puis après, il est parti vivre au Japon, et du Japon, il est passé en Inde pour apprendre un instrument qui s'appelle la moenvina auprès d'un monsieur qui s'appelle V.M. Bhatt. Et puis voilà, il y est allé pour acheter l'instrument et puis prendre quelques cours. Il est resté 5 ans. Et puis donc voilà, donc ce monsieur fait plein de choses et reprend notamment pas mal de titres de gens connus, fait ses propres compositions, reprend pas mal le blues, et c'est un pont vraiment entre le blues, la musique indienne, la musique orientale, et c'est sa marque de fabrique. Voilà, pour présenter un peu le monsieur, qui est un monsieur éminemment sympathique d'ailleurs.
Éminemment sympathique, éminemment doué, on va dire instrumentalement parlant, vocalement.
Très belle voix.
Et puis qui a jamais fait de mauvais album.
Non, j'en connais aucun, honnêtement. Voilà, ils se ressemblent tous un petit peu parce qu'il va chercher dans le blues, il va chercher dans la musique orientale, il fait cette espèce de pont. Ce que j'expliquais la dernière fois, il a aussi fait des albums avec Kevin Bright, qui est un guitariste talentueux. Et voilà, les albums ont tous un peu le même style, mais tous ces albums sont vraiment très très bons.
Eh ben, on va écouter cinq extraits d'albums différents. Grâce à toi, Laurent.
Alors celui-là, si je ne m'abuse, c'est extrait de Dog My Cat. Et c'est un morceau relativement connu, écrit par un certain McKinley Morganfield.
Muddy Waters.
Ouais, voilà. Ben, on y va.
Can't be satisfied. Harry Manx.
Trouble no more, Lord, I'm trouble. I'm trouble on your mind. Oh, I can't be satisfied, and but I just can't keep from crying. Well, I know my little baby, she's gonna jump and shout. That old train came late, and I come walking now, Lord, I'm trouble. Trouble on your mind. Oh, I can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Place, Lord, I'm trouble, I'm trouble.
just can't keep from crying. Oh, I can't be satisfied, baby, and I, oh, but I just can't keep from trying. Oh, no, just can't keep from trying, girl, no.
Harry Manx dans Sweet Home Chicago, il est 13h50 à l'écoute du 666, c'est toujours la rubrique de Laurent Choubrac pour Harry Manx, Can't Be Satisfied, une reprise, il y en a une autre qui est prévue, mais après on va taper dans le répertoire plus perso. Hein.
Voilà, alors le titre d'après c'est tiré d'un album qui s'appelle West It's Meet, qui je trouve résume bien la philosophie musicale de ce monsieur-là, hein, entre l'Ouest et l'Est. Il explique d'ailleurs dans cet album qu'il voulait faire un pont entre le groove gospel blues et le sens de l'harmonie indienne.
Alors ça c'est marrant parce qu'on peut lire West meet East, mais oui. En fait c'est It's, oui. Donc l'Ouest bouffe.
Ouais. C'est très drôle parce qu'au début je l'écrivais West East, West meet East, mais c'est West It's meet.
Si vous n'avez rien compris, vous écrivez.
C'est pas grave. Donc, encore dans cet album, un mélange d'Ouest et d'Est. Donc là, on va rester un peu dans l'Ouest avec un titre écrit par un certain Sonny Boy Williamson et Willie Dixon d'ailleurs.
Ouais.
Et ça s'intitule Help Me.
Can't make it by myself. You gotta help me now, darling. Well, I can't make it by myself. If you don't help me, little baby, I'm gonna have to find somebody else. Yes. I might have to cook, I might have to sew, I might have to clean, Lord, Lord, I'm gonna mop the floor, but you gotta help me, little darling. I can't make it by myself. You don't help me, little baby, I'm gonna have to find somebody else.
You can help me, baby, because I can do it by myself. Donc voilà.
Monsieur Harry Manx.
Monsieur Harry Manx. On va passer sur un autre album. Alors là, ce que j'ai dit, un album d'Harry Manx et Kevin Braid, qui est un très 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 bon disque. En plus, mon exemplaire, il est signé par monsieur Harry Manx lui-même, donc
C'est pas le Jubilé qu'on a écouté l'autre fois. Hein.
Non, c'est un autre. C'est venu plus tard. Il est de 2007, celui-là.
Ouais.
Et bah voilà, donc c'est encore un mélange de reprises. Il démarre étonnamment cet album par un morceau de Bruce Springsteen. Après avoir repris du Hendrix, hein, voilà, il est capable de reprendre plein d'autres choses. Et là, on va passer une compo un petit peu plus rentre dedans, enfin, parce qu'il y a un peu d'électrique. Et c'est Kevin Blake qui tient l'électric slide. Et c'est un titre écrit par Harry Manx qui s'appelle Still Six.
His own judge. There's something you can't fix.